Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, nous inaugurons une mini-série à l'intérieur de cette série sur les premiers ministres les plus marquants de l'histoire d'Australie. Et on va commencer par l'un des artisans du rassemblement de toutes les colonies d'Australie en une fédération. Je parle d'Alfred Deakin. Il n'est pas le tout premier Premier ministre, il a été le deuxième à avoir gouverné l'Australie, c'était donc au tout début du XXe siècle. Et pour cette série sur les premiers ministres, comme sur tous les autres épisodes que nous traitons dans cette série, on va voir tout ça en détail avec l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors Romain, Alfred Deakin, il s'est lancé assez tôt en politique dans son état natal, l'état du Victoria, mais dans le civil, si j'ose dire, il a également été avocat. Et un détail de sa biographie qui m'a un petit peu interpellé, c'est que parmi les clients qu'il a eu en tant qu'avocat, il a défendu un tueur en série qui s'appelle Frederick Bailey Deeming. C'est qui ce monsieur et comment il s'est retrouvé à le défendre?
Alors déjà, je vais un peu reprendre. Vous nous avez dit que Deakin était le second Premier ministre australien et je sais que si moi j'entendais ça à la radio, je demanderais mais qui était le premier? Donc on va vous le dire, chers auditeurs, c'était Edmund Barton, B-A-R-T-O-N, qui était Premier ministre pendant à peu près 2 ans et demi. Et pourquoi on a choisi de commencer cette série avec Alfred Deakin, le numéro 2, le Premier ministre qui vient en second, c'est parce qu'il a une carrière assez remarquable. Il a été Premier ministre à plusieurs reprises et surtout, il a été très important dans la construction de l'Australie moderne que l'on connaît. Et pour reprendre le fil de cette histoire, vous avez rappelé sa double carrière en tant qu'avocat et homme politique. On va commencer par le début pour le situer, en fait, parce que là, on remonte dans le temps. Alfred Deakin, il est né en août 1856, donc il y a un petit moment. Dans les faubourgs de Melbourne, d'un père et d'une mère de, on va dire, le bas de la classe moyenne, quoi, ou classe moyenne aspirante, parce que le père de Deakin, en l'occurrence, c'est un migrant britannique et sa maman également. Ils vont d'abord s'installer en Australie méridionale vers Adélaïde. Et puis, en fait, au moment de la ruée vers l'or dans le Victoria, ils déménagent dans le Victoria, vers Melbourne. Et le père est transporteur de biens, d'objets, de personnes, un peu. Et puis, en fait, ils s'investissent dans l'éducation de leur fils. Donc, le petit Alfred Deakin, il commence à étudier à la Melbourne Grammar School, qui est toujours une très bonne école dans le Victoria. Et puis, après, il bénéficie d'une éducation à l'université de Melbourne et devient avocat à l'âge de ses 20 ans à peu près. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce type d'éducation. À l'époque, l'université est réservée à une petite élite. Et troisième point, c'est un garçon très doué. C'est un garçon très doué et il est admis au barreau en 1877. Donc, il a, 21 ans. Et à l'époque, il est déjà un peu touche-à-tout. C'est-à-dire qu'il combine le travail juridique avec le journalisme. Et donc, un des cas effectivement célèbres du jeune avocat Deakin, c'est la défense de Frederick Bailey Deeming, qui est en fait un tueur en série, si vous voulez. Certains ont pensé que derrière Deeming se cachait Jack the Ripper. Enfin, ça n'a jamais été prouvé.
Jack l'Éventreur.
Je ne me souviens plus. Jack l'Éventreur, merci, en français. Ça n'a jamais été prouvé, mais enfin, du coup, ça avait apporté une certaine lumière. Ça avait été un peu sous les spotlights médiatiques à l'époque. Et donc, il était chargé de la défense de cette personne qui était assez difficilement défendable du fait des preuves accablantes, parce qu'en fait, il avait commis des meurtres à la fois en Angleterre et puis en arrivant en Australie. Donc, le procès a tourné court, parce qu'en fait, il a été exécuté assez rapidement. Ce qui avait aussi retenu l'attention à l'époque, parce que normalement, à cette époque-là, avant d'exécuter quelqu'un, on prend quand même son temps dans le cadre de l'Empire britannique. Donc voilà, Deakin s'est aussi un peu fait connaître en tant que jeune avocat dynamique dans une affaire vraiment sensationnelle, au sens propre du terme.
Ouais. Et d'ailleurs, de nombreux autres avocats ont fini par rentrer en politique après cette saisie d'affaires qu'ils n'ont pas forcément gagnées, mais qu'ils ont pour lesquelles, en tout cas, ils ont plaidé et ils ont été exposés médiatiquement. Revenons donc maintenant sur le côté politique de ce personnage, Alfred Deakin. Il grandit donc dans une Australie qui est encore divisée en plusieurs colonies. Et lui, personnellement, il s'engage assez tôt en faveur du mouvement fédéraliste. Il va même quelques années avant que l'Australie devienne une fédération, un pays uni. Il a contribué à la rédaction d'un document qui, plus tard, qui explique en gros comment fonctionneraient eh bien, les différentes colonies rassemblées au sein d'une même fédération. Et qui, une fois que celle-ci sera instaurée en 1901, en fait, la Constitution reprend dans les très grandes lignes ce document.
Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi on a choisi donc le second Premier ministre? C'est justement parce qu'en fait, en parlant d'Alfred Deakin, on parle de la transition de colonie australienne en la fédération australienne que l'on connaît aujourd'hui. Avant d'avoir cette structure fédérée de 1901, vous avez une petite galaxie de colonies au bout du monde qui sont en lien avec Londres. Et si vous voulez, les parlements locaux ont certains droits, mais ça demeure des petites colonies assez isolées et beaucoup de décisions sont prises à Londres. Donc, plutôt que d'avoir une colonie du Queensland, du Victoria, d'Australie occidentale, d'Australie méridionale, de Tasmanie, dans la seconde moitié du 19e siècle, les Australiens qui sont maintenant troisième, quatrième génération d'Australiens se disent, ben, en fait, ce serait peut-être bien que nous nous fédérions et que nous demeurions partie intégrante de l'Empire britannique, mais que nous ayons plus d'autonomie sur le contrôle des frontières, sur la gestion du commerce, en fait, sur nos décisions de la vie de tous les jours. Et ça, c'est un mouvement qui prend du temps. Hein. Ça mûrit en 20, 30, 40 ans, ça prend beaucoup de temps à être établi, et Deakin est un personnage central dans cette histoire. Et pour bien comprendre les choses, si vous voulez, si vous êtes, je sais pas moi, la colonie du Queensland, et que vous avez besoin d'ouvriers pour la culture, vous allez importer des migrants. Mais de l'autre côté du pays, vous avez le Victoria qui est en crise économique et qui refuse l'arrivée de migrants. Bon, alors vous pouvez fermer vos frontières du Victoria, mais une fois qu'ils débarquent dans le Queensland, rien ne les empêche de descendre à pied, quoi, si vous voulez, enfin, autrement. Et donc, se pose le problème de loi fédérale, c'est-à-dire comment on gère l'immigration, comment on gère le commerce, comment on gère la défense. Et donc, très tôt, une des solutions, c'est donc de s'unir et que chaque citoyen australien anciennement dans différentes colonies, que ces colonies deviennent des États, États eux-mêmes compris dans un État fédéral qui regrouperait tous les Australiens. Et donc Deakin est un militant central du fédéralisme. Il est délégué aux conventions constitutionnelles des années 1890, membre du comité constitutionnel. Il a contribué au projet de constitution soumis au référendum, hein, qui a été donc adopté et entré en vigueur en 1901. Et puis en fait, en parallèle de son travail au niveau, enfin ce qu'on appellera national plus tard, il est cheville ouvrière dans le Victoria pour mener campagne, pour persuader les habitants du Victoria que rejoindre une fédération serait plus intéressant que d'être une simple colonie britannique. Et donc, c'est le plus jeune délégué de la Convention de 1891, et puis c'est un acteur majeur de la Convention constitutionnelle de 97-98. Comme j'ai dit, il est membre du comité de rédaction, et il participe très tôt à l'élaboration du projet de constitution. Donc, si vous voulez, quand on pense à l'Australie d'aujourd'hui, et toutes les institutions, et on va y revenir, elle porte la marque d'Alfred Deakin et de nombreux autres pères fondateurs, entre guillemets, mais celle de Deakin est très importante parce que voilà, il fait partie, comme je l'ai dit, de ce comité constitutionnel qui devient la Commonwealth Constitution Bill.
Ce qui est étonnant dans ce combat qu'il mène pour le fédéralisme, c'est que derrière le fédéralisme, en fait, il y a aussi le souhait de s'émanciper un petit peu de l'Empire britannique, c'est ce que vous expliquez. Et pourtant, lui, comme d'ailleurs la plupart de ses contemporains en Australie, Il souhaite rester étroitement lié avec Londres, avec l'Angleterre, avec l'Empire.
Alors, ça peut nous paraître paradoxal. En fait, ce qui est compliqué quand on se penche sur la fin du 19e siècle, c'est que les paramètres sont totalement différents. Par exemple, la droite est pour l'immigration et la gauche est contre l'immigration. Parce que la gauche, à l'époque, veut protéger le travailleur australien. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui sont assez inversés et donc on ne peut pas nécessairement penser en termes de gauche-droite et on va y revenir. Mais pour le cas, aujourd'hui, enfin, surtout en tant que Français, on pense, voilà, un pays est autonome et souverain. À l'époque, c'est pas la question, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être un habitant du Victoria, loyal au Victoria, loyal au futur État australien, le Commonwealth, et puis loyal à l'Empire. Et en fait, tout ça fonctionne en vase clos parce qu'on est encore à l'époque du commerce intra-impérial, où le développement de l'Empire passe par le développement de ses colonies à l'exclusion d'autres empires et de d'autres sphères d'influence. Et donc, de toute façon, à cette époque-là, l'Australie ne peut pas vivre seule. Elle a encore besoin des capitaux étrangers, elle a encore besoin de ce commerce d'export, hein, c'est-à-dire que ce soit l'or, que ce soit le blé, que ce soit la laine de mouton. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un pays qui est encore sous perfusion économique. Et donc, ça n'empêche pas de se fédérer pour avoir quand même un peu plus de poids au sein de l'Empire. C'est plus facile d'être une nouvelle nation que d'être une série de petites colonies, si vous voulez. Vous avez une force de frappe, entre guillemets, plus importante. Donc, en fait, faut pas penser que, voilà, avec la fédération des colonies australiennes en 1901, il y a indépendance de l'Empire britannique. Pas du tout, absolument pas. En fait, quasiment le contraire. On renforce l'Empire en se renforçant soi-même. Et donc, preuve de son impérialisme, c'est un partisan de la fédération impériale. Il se déplace à plusieurs reprises pour prendre part à des conférences impériales en représentant l'Australie à Londres. Et puis, c'est un délégué majeur de la conférence impériale de 1907. C'est-à-dire que non seulement c'est un homme politique dans le Victoria, c'est un homme politique important pour la nouvelle Australie, mais c'est un homme politique important au sein de l'Empire britannique. Et un de ces sujets, de ces fers de lance principaux, c'est la préférence commerciale. C'est-à-dire que on est dans un monde d'avant libre-échange. Alors on commence à y arriver, et vous avez des nouveaux hommes politiques qui prônent le libre-échange, et puis vous en avez d'autres comme Deakin qui sont des protectionnistes et qui eux veulent des barrières douanières très fortes, comme Donald Trump aujourd'hui. Donc c'est une politique passéiste, hein, celle de Donald Trump par rapport à là où nous en sommes. À l'époque, en revanche, il est communément accepté qu'avoir des droits de douane protège l'industrie nationale. Or, ça a été prouvé depuis par de nombreux économistes que c'est une bêtise à plein d'égards. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce qui est important pour Deakin, c'est de protéger l'Australie, mais de la protéger au sein de l'Empire, et par cette protection, arriver à ce que à la fois l'Empire et l'Australie bénéficient d'un commerce renforcé entre les deux.
Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant l'un de ces tout premiers ministres australiens, Alfred Deakin. Dans un prochain épisode à paraître d'ici quelques jours, on s'intéressera plus spécifiquement à la partie de sa vie durant laquelle il a été au pouvoir, d'abord en tant que membre du gouvernement et puis très vite en tant que premier ministre. On se retrouve donc d'ici quelques jours et d'ici là, je vous souhaite de très bons moments. À bientôt!
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.